franceinter.fr.
Bonjour Abdou Diouf.
Bonjour.
Vous êtes le patron de la francophonie, secrétaire général de l'OIF depuis 12 ans et pour quelques jours encore. Vous avez présidé le Sénégal pendant près de 20 ans et vous publiez vos mémoires au Seuil, un livre dominé par la figure de Senghor, dont vous avez été le directeur de cabinet, puis le Premier ministre, et où l'on croise aussi tous les grands chefs d'État français et africains. Il y a là un demi-siècle de vie publique, au terme duquel vous vous interrogez sur la solitude du pouvoir. Comment être dans la foule de ses collaborateurs et faire en sorte de ne pas être un homme isolé, écrivez-vous. Je vous pose la question, comment présider un pays sans se couper de son peuple ?
On ne peut présider un pays et obtenir des résultats qu'en étant très proche de son peuple, d'une façon ou d'une autre, en faisant des tournées à travers le pays, bien sûr, en recevant des corps intermédiaires et en essayant de passer au-delà des institutions et des institutionnels pour aller vers la société civile et entendre la voix du peuple et ses aspirations.
Pourtant, il y a tellement de dirigeants qui n'entendent plus les aspirations de leur peuple et qui font tout pour s'accrocher au pouvoir. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Blaise Compaoré au Burkina ?
Écoutez, je vais d'abord, sur la réflexion politique, dire que si on est un chef d'État pour servir la chose publique, comme disait Montesquieu, la démocratie... Le principe de la démocratie, c'est la vertu. La vertu entendue au sens de l'intérêt général. Si on se place dans cette position, on a très peu de chances de commettre de risques d'erreur. Mais si on se place dans la position où on veut régner, être un monarque républicain, évidemment, ce n'est plus la même chose. Cela dit, sur le président Blaise Compaoré, je nuance. Je crois que c'est quelqu'un qui a profondément aimé son peuple, qui l'a servi avec beaucoup d'abnégation et de résultats, et qui également a beaucoup aidé dans la sous-région à résoudre les crises. Il a commis une erreur d'appréciation à la fin, et c'est ce qui a causé la situation actuelle.
Et une erreur d'appréciation, simplement, j'ai envie de prolonger ma question de début. Comment présider un pays sans y prendre goût, au point de ne plus vouloir lâcher son fauteuil, quitte à modifier la Constitution indéfiniment.
Mais je vous assure que c'est très difficile. On a très facilement la grosse tête. On a très facilement l'envie de goûter à cette ivresse, de rester dans cette ivresse du pouvoir, je le sais. Mais il faut chaque fois trouver des balises. Et moi, je le dis très modestement, une de mes grandes balises a été mon épouse, très croyante, fervente, catholique, moi je suis musulman, et qui chaque fois me ramenait aux réalités en me disant que je suis là. Modestie, humilité, toujours avec l'autorité. Et j'appliquais toujours ce principe du président Senghor. Il faut être ferme dans l'exercice du pouvoir, sans cruauté inutile, ni faiblesse coupable.
Et c'est ce qui a fait que vous avez quitté le pouvoir au Sénégal dans des conditions parfaitement démocratiques, après une défaite électorale.
Oui. Et c'était bien comme ça, finalement. Avec le recul, je considère que c'est une bonne chose. Parce que, comme je le dis, j'ai quitté le pouvoir, j'ai été battu, j'ai reconnu la victoire de mon challenger. Et ensuite, le Sénégal a été cité en exemple dans le monde entier. Ouais. Je me dis, mais si j'avais gagné, qu'est-ce qui se serait passé ? On aurait dit encore les mêmes, on aurait dit que l'opposition aurait crié à la fraude, alors que pour une fois, quand après ma victoire, l'opposition a dit « Ah oui, il faut dire que cette élection a été vraiment juste, loyale, transparente, Abdou a bien fait les choses. Ouais. » Et dans la paix en plus. Vous voyez, moi, je ne me place plus dans mon point de vue individuel, mais en jugeant d'une façon générale mon pays, l'intérêt de mon pays par rapport aussi au regard de l'extérieur.
Oui.
Ça a été une bonne chose.
C'est très bien, mais ça n'a pas partout fait école. Est-ce que ça, vous le dites parfois à Paul Biya au Cameroun ou à Denis Sassou Nguesso au Congo quand vous les croisez ?
Ah non, je ne suis pas un donneur de leçons.
Vous leur parlez parfois ?
Oui, je leur parle, mais je ne leur parle pas de ces choses-là. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je peux être considéré pour certains comme un modèle, pour d'autres comme un exemple, mais moi, je ne suis pas un donneur de leçons, ni pour mes successeurs à la tête du Sénégal, ni pour un quelconque autre chef d'État. Et celui qui me demande un avis, je le donne. Mais je n'impose jamais mes avis. En tant qu'ancien président, je veux dire.
Bon, vous avez sans doute tout de même un regard particulier, un regard de sage et expérimenté sur la situation de l'Afrique aujourd'hui. Comment voyez-vous la propagation de cet intégrisme musulman qui nous inquiète tous dans le monde, dans le Sahel africain?
Oui, c'est une vraie source d'inquiétude et je crois qu'il doit y avoir une mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale pour faire barrage à ces intégristes, à ces djihadistes qui se couvrent du manteau de la religion, alors qu'on sait très bien qu'ils n'appliquent pas la religion. Moi, je suis un musulman, je n'ai rien de commun avec ces gens-là. Une religion de miséricorde, de pardon, d'amour, où il est dit « point de contrainte en religion » dans une de ses plus belles sourates. Ce n'est pas possible, ce ne sont pas des musulmans. Donc, cela dit, ça devient un problème politique. C'est une idéologie de la terreur, c'est une idéologie de la barbarie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une idéologie de la cruauté. Et je crois que la seule façon de faire face, ce n'est pas de dialoguer, puisque ce sont des gens qui ne connaissent pas ce langage. La seule façon d'en sortir, c'est de lutter contre eux avec des forces armées.
Vous pensez que les moyens militaires peuvent suffire à enrayer ces avancées?
Mais en tout cas, je n'en vois pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres. Ouais. Il faut ensuite, évidemment, expliquer, il faut parler. Il faut, par exemple, tarir les sources de recrutement. Il faut que dans vos pays ou dans nos pays, quand il y a des jeunes qui sont tentés par cela, que les jeunes soient davantage encadrés, qu'il y ait davantage de personnes qui parlent. J'ai été très heureux d'entendre certains chefs religieux musulmans dans ce pays s'exprimer de la façon la plus forte pour dire « ce n'est pas l'islam, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas l'islam ». Mais en même temps, pour l'heure, que ce soit Boko Haram, que ce soit Ansar Dine, que ce soit Daesh, que ce soit les islamistes ailleurs, il faut bien utiliser la force parce que vous ne pouvez pas utiliser la diplomatie.
Vous n'avez pas d'autre, Abdou Diouf, vous n'avez pas d'autre analyse du phénomène? Comment expliquez-vous la propagation de cette cause auprès des jeunes Africains?
Et des jeunes Français.
Et des jeunes Français, parfois.
je ne peux pas... Je crois qu'il faudrait écrire une thèse là-dessus. Mais pour l'heure, ce que je vois, c'est que ça crée des catastrophes humaines en chaîne et qu'il faut lutter contre ça. Et j'approuve tous les gouvernements, et je trouve qu'ils ne sont pas encore assez nombreux, qui sont engagés dans cette lutte contre ce phénomène terrible, terrible de notre siècle.
Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour poursuivre ce dialogue avec Bernard Guetta, évidemment, mais aussi avec Jean-Christophe Ruffin, que vous connaissez bien, l'écrivain qui fut ambassadeur au Sénégal de 2007 à 2010. À tout à l'heure.